cette semaine, vous avez parlé avec lui, Daniel Habert, donc géopolitologue, du lien qui existe entre crise économique et crise géopolitique. On écoute ça, et moi, pour ma part, ce sera avec un très grand intérêt.
Daniel Habert, bonjour.
Bonjour Blaise, bonjour chers amis.
Vous êtes géopolitologue et comme tous les lundis matins, nous allons avoir cette chronique conversation. Et aujourd'hui, nous allons parler de la relation entre les crises géopolitiques et les crises économiques. Alors pour commencer, Daniel Habert, quelle est la relation, quel est le lien entre les crises géopolitiques et les crises économiques ?
Bon, il y a une façon de le comprendre parfaitement, c'est la référence à 1929 qu'on a tous en tête. La crise économique, une vraie crise économique mondiale, a entraîné la naissance en Europe de fascisme et leur réplique au Japon, et ça a entraîné la Deuxième Guerre mondiale. Donc on a compris, et en fait, toutes les crises économiques que nous vivons depuis l'après-guerre, on essaie de les gérer pour éviter de dupliquer cette crise épouvantable de 1929. Comment éviter 1929 ? Alors, est-ce qu'on est en train d'y arriver ? Au fond, c'est ça votre question. Effectivement, nous vivons aujourd'hui une crise économique. Alors, elle n'a pas un caractère dramatique au sens où il n'y a pas de chômage, où il n'y a pas de faillite retentissante, mais elle est là, la crise. Elle est mondiale, et un pays en particulier est touché par la crise, c'est la Chine. Et ça a des répercussions sur nous tous, parce que c'est un grand acteur économique mondial aujourd'hui. Et si on essaie d'expliquer pourquoi cette crise économique s'installe chez nous, pour des raisons géopolitiques, au fond, il faut partir de 2008. 2008, c'est une crise économique en Occident, une crise américaine, qui fait que la crise s'installe aux États-Unis et surtout en Europe. Et pour s'en débarrasser, les États, finalement, se sont beaucoup endettés et aujourd'hui manquent de munitions pour se battre contre la crise actuelle. Donc ça, c'est le fond de l'affaire. Et puis depuis 2008, les Américains ont commencé à regarder la Chine avec un œil nouveau. Les Jeux Olympiques de Pékin ont été une telle réussite que ça a alerté les Américains sur ce nouveau danger venant d'Asie. Et Obama a commencé à focaliser sur la Chine, Trump a engagé des sanctions et Biden les aggrave. Donc on a ce schéma de la confrontation États-Unis-Chine qui, évidemment, entraînant un certain nombre d'incertitudes dans le monde, fait que la plupart des opérateurs mondiaux font attention, investissent moins en Chine, sont dans l'attente. Ça, c'est un des moteurs de la crise. Évidemment, il y a eu le moteur du Covid. Alors ça n'a rien à voir, mais parce que l'économie est devenue mondiale, tout de suite les épidémies deviennent mondiales presque instantanément, parce qu'il y a beaucoup d'échanges. Et donc cette crise du Covid, elle a isolé la Chine du reste du monde, parce que la Chine s'est isolée pour faire ce qu'on appelle la politique du zéro Covid. Or, la Chine est le grand fournisseur des produits industriels du monde, y compris des composants qui manquent aujourd'hui. Et donc, ça a ralenti, au fond, la production mondiale. Et puis, au moment de la reprise après le Covid, vers les années 2021 et puis surtout début 2022, au moment où tout le monde était reparti de l'avant, nous est arrivée la guerre en Ukraine, avec son lot de sanctions économiques, crise énergétique, sanctions de toutes sortes, céréales dont on parle tous les jours. Donc, si vous voulez, si vous ajoutez tout ça, vous avez l'effet massif de ces événements géopolitiques sur une économie aujourd'hui qui est dans l'inflation, qui montre qu'il y a plus de demandes que d'offres. J'ai expliqué pourquoi. Et donc, on a un ralentissement de la croissance. Et voilà le lien.
Mais au fond, Daniel Habert, une crise géopolitique entraîne une crise économique, mais vice-versa, la crise économique entraîne une crise géopolitique.
Voilà, c'est la dialectique épouvantable, parce que la crise économique actuelle va prolonger, au fond, les crises géopolitiques. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. On a une crise mondiale, mais en réalité, chaque peuple, chaque nation la vit comme une crise nationale. Le gouvernement belge, le gouvernement français, le gouvernement américain doit expliquer à ses électeurs que la crise peut-être vient de l'étranger, mais elle est chez nous et il faut la régler chez nous. Donc, chacun essaye de la régler comme il peut. Je vous ai dit que la crise de 2008 ayant endetté lourdement les États, on a beaucoup moins de possibilités aujourd'hui de subventionner, d'aider les gens. Donc, les gens sont en train de souffrir davantage. Et donc, vous avez une crise sociale à base de revendications. On veut des salaires plus élevés pour rattraper l'inflation, mais si on le faisait, on augmenterait l'inflation. Donc, chaque pays fait souffrir sa population. Dans les pays démocratiques, évidemment, on est obligé de faire attention parce que les peuples ont leur mot à dire au moment des élections. Par contre, dans les pays autoritaires, Chine et Russie, les peuples ne s'expriment pas ou les dirigeants peuvent les ignorer. Donc, il y a une tentation quand même un peu partout, c'est de trouver des boucs émissaires en disant, bon, oui, on fait ce qu'on peut, mais c'est la faute à. Alors évidemment, pour les Russes, les Chinois et tous ceux qui les écoutent, c'est la faute aux Américains. Et pour l'Occident, c'est la faute à la Russie et à la Chine qui se tient à ses côtés. Et donc tout ça, évidemment, ne conduit pas à trouver des solutions aux crises. Au contraire, ça conduit à les amplifier et surtout à les prolonger dans la durée. Si vous voulez, on voit bien que la crise en Ukraine aujourd'hui, quand vous parlez avec les experts militaires, ils disent on s'est installé dans une guerre de tranchées d'abord, et ça va durer. La première guerre mondiale, elle a duré 5 ans, et toutes ces guerres finissent par durer assez longtemps à cause justement du fait que personne n'est prêt à négocier parce que chacun est énervé au fond par l'autre.
À un moment, les États vont être obligés de résoudre le conflit géopolitique à cause de la crise économique.
Écoutez, c'est l'espoir. On se dit tous, tout le monde va finir par comprendre, est intelligent, va dire comprendre que c'était la prospérité qui apportait la paix. Donc, si on veut retrouver la paix dans le monde, retrouvons la prospérité. Et donc, mettons fin au conflit. Et en particulier, on commence à entendre des bruits sur mettons fin au conflit en Ukraine, invitant nos amis ukrainiens à se couper un bras, hein, à perdre la Crimée et le Donbass. Mais ça va permettre de sauver l'économie mondiale. C'est un peu ce qu'on entend. Mais c'est pas la dominante, parce que finalement, nous sommes entrés, et ça c'est vraiment très intéressant, dans ce qu'on pourrait appeler une guerre des résiliences. C'est-à-dire que les deux grands camps, le camp soi-disant des démocraties et le camp des autocrates, espèrent que l'autre sera moins résilient et qu'il cédera le premier. On est dans une position assez cynique. Et en particulier, les Russes et les Chinois se disent, ces démocraties sont faibles, ont été affaiblies par la prospérité, veulent plus se battre. Nous, on est beaucoup plus forts parce que finalement, nos populations sont habituées aux sacrifices, sont habituées aux pénuries. De toute façon, on n'est pas obligé de les écouter. Donc, c'est nous qui tenons le bon bout. Ces démocraties vont être fi finalement obligées de céder aux pressions populaires qui vont dire arrêtez tout ça pour retrouver la prospérité. C'est pas tout à fait ce qui arrive. Et si on se rappelle la Deuxième Guerre mondiale, on s'est aperçu finalement que c'était aussi une guerre longue, une guerre des résiliences, et que finalement c'est les démocraties qui ont été les plus résilientes, qui ont offert les plus grands sacrifices, et qui pensaient à l'Union soviétique qui a perdu 20 millions de siens, pensaient à l'Amérique qui a transformé toute son économie en une économie de guerre. Donc finalement, il n'est pas du tout sûr que les démocraties soient moins résilientes que les dictatures. Donc nous avons au fond deux camps qui sont également résilients, et donc ça va prolonger la guerre. Et tous ceux que je rencontre, tous les experts sur la guerre en Ukraine disent ça va durer. Et puis la confrontation entre les États-Unis et la Chine, elle s'installe aussi dans la durée. Et au fond, chaque pays et chaque entreprise surtout est en train de s'adapter à la nouvelle donne. On va vers du dérisquage, on va cesser de vouloir être. Alors ça, c'est peut-être la conclusion. La paix par l'économie, c'était soyons interdépendants. Si on est interdépendant, la guerre, évidemment, nous fait perdre. Bon, ben ça y est, on est dedans. L'interdépendance, on est en train d'essayer de s'en dégager. Le thème principal, c'est restons indépendants. Mais si chaque pays est indépendant, il va avoir une tentation de prolonger les conflits. Donc l'interdépendance, c'était la paix. La volonté d'aller vers l'indépendance des économies va malheureusement prolonger les conflits et ça nous donnera beaucoup d'occasions dans nos conversations de trouver des sujets.
Daniel Haber, je rappelle que vous êtes géopolitologue. On se retrouve lundi prochain pour des prochaines conversations.
À bientôt.